Sportez-vous bien. Sportez-vous bien. L'actualité sportive commentée par Jean Sureda.
Bonsoir à tous et bienvenue dans Sportez-vous bien sur Radio Présence. Nous sommes ensemble pendant une heure pour débattre avec mes chroniqueurs de l'actualité sportive de la semaine, le tout accompagné de sportifs de haut niveau. Au programme aujourd'hui, les mythiques coups de cœur et coups de gueule de nos chroniqueurs. Lucas Serdic nous donnera l'agenda de la semaine et enfin le débat avec bien évidemment le rugby et les phases finales du top 14. Enfin, nous recevrons Philippe Quintet, 13 fois champion du monde de pétanque. Avec nous ce soir, Mehdi Guillonot. Bonsoir Mehdi.
Bonsoir Jean.
Lucas Serdic, bonsoir Lucas.
Bonsoir.
Et le retour d'Éric Dupri, bonsoir Éric.
Bonsoir Jean, bonsoir à tous.
Bonsoir messieurs.
Bonsoir.
Vous allez bien en ce lundi 27 mai. C'est vrai que sur la feuille, on prépare nous sur nos petites feuilles. J'ai mis le 20 mai.
Non, vous n'avez juste pas changé la date, vous pouvez le dire Jean.
J'ai gardé le même document et j'ai modifié bien sûr. Comme nous l'a dit Francky juste avant l'émission, c'est vrai qu'on va parler du ping-pong gate et j'ai encore perdu.
Ben oui, mais normal enfin.
Ouais, mais j'ai mis 3-7. La dernière fois j'ai perdu 4-7-0, là j'ai mis 3-7.
Mais il n'y avait pas Maxime Brossard cette semaine, c'est peut-être pour ça.
Oui, il joue jamais.
Ah,
on le salue d'ailleurs, Maxime et Timothée qui sont pas là.
Il s'assoit, il regarde lui en général.
Oui, et puis Maxime il commente. Voilà, il commente. Bon, Mehdi, j'ai été encore une fois gentil, je vous ai encore une fois laissé gagner.
Oui, vous avez pris une remontada, on peut le dire.
Oui, bon d'accord, je gagnais 3-7 à 1, j'ai perdu 4 à 3.
C'est des 7 de quoi, de 11 ou
de 11,
21
de 11.
Ouais, d'accord, vous avez du temps, dis donc.
Oui, nous sommes des professionnels, c'est pour ça. Ouais.
Vous progressez quand même, je trouve que vous progressez.
Oui. Et d'ailleurs,
c'est un spécialiste qui le dit en plus.
Oui, c'est
certainement. Oui.
D'ailleurs, je vais peut-être jouer contre vous, peut-être après l'émission, pourquoi pas.
Avec plaisir.
Pourquoi pas, ce serait sympa. On avait fait quelques balles, j'ai jamais joué contre vous, Lucas, par contre.
Non, c'est normal, j'ai autre chose à faire que de jouer au ping-pong.
Justement, par contre, en parlant de j'ai autre chose à faire.
Il a le temps de changer les voitures.
Voilà. Exactement.
Oui.
On va expliquer à nos auditeurs. C'est vrai que ça fait. Pour la première fois depuis 3 semaines, en 3 semaines, vous avez changé. 3 fois de voiture.
J'ai pas changé
de
voiture.
C'est exceptionnel.
J'ai une
trois voitures différentes en 3 semaines. Monsieur.
Non.
Et en CDI à la dépêche.
Enfin. J'ai une voiture de travail, une voiture de ma compagne et une voiture de moi-même. Voilà.
C'est bon. Et vous préférez laquelle?
Je préfère la mienne, évidemment.
Mais
bon, je suis obligé de la prêter. Elle a des circonstances atténuantes.
Oui. C'est pour bientôt.
C'est pour très bientôt.
Oui. Bon, je vois que vous êtes prêts. On va pouvoir démarrer avec les coups de cœur et les coups de gueule.
Sportez-vous bien, les coups de cœur et les coups de gueule.
Comme chaque lundi, vous nous parlez d'un événement sportif qui vous a marqué, un exploit, une déception. Mais aujourd'hui, messieurs, vous êtes vraiment tous satisfaits. C'est vrai que l'actualité sportive du week-end, de la semaine, c'est difficile de critiquer. Le TFC, on l'a déjà fait à maintes et maintes reprises. De toute façon, ça servait pour rien.
On pourra continuer un petit peu aussi tout à l'heure.
Voilà, on pourra le faire tout à l'heure. Je vais me tourner vers vous, Lucas Serdic.
Mm-hmm.
On va commencer par vous. On va parler de sport automobile,
mm-hmm,
et l'énorme performance de Simon Pagenaud, vainqueur des 50 miles d'Indianapolis.
500 miles.
500 miles.
Et oui, beaucoup plus. Parce que la course, ça dure très très longtemps.
200 tours. Hein, c'est
200 tours de piste.
C'est un exploit incroyable.
C'est un exploit incroyable parce que c'est une des trois plus grandes courses, c'est ce qu'on considérait en tout cas comme l'une des trois plus grandes courses automobiles du monde, après les 24 heures du Mans et le Grand Prix de Monaco, donc la seule qui n'est pas sur notre territoire français, même si Monaco ne fait pas partie du pays.
Presque.
Et c'est la plus grande course automobile hors Europe, donc aux États-Unis a fortiori. Et Simon Pagenaud, notre Français de 35 ans, l'a gagné après avoir décroché la pole position et après avoir gagné aussi en IndyCar le Grand Prix d'Indianapolis, qui était il y a seulement quelques semaines, c'était le 11 mai. Donc un magnifique triptyque, une course en plus haletante, qu'il a vu se faire quand même doubler quelques fois.
Il a eu peur, il a eu raison,
hein, ça s'est pas joué à grand chose. Derrière lui, il a quand même deux autres vainqueurs des 500 miles. Il a bien tenu, il a mené 116 tours sur les 200, et c'est une sacrée performance, puisque le dernier Français à l'avoir remporté, il s'appelait Gaston Chevrolet, et c'était en 1920, donc il y a presque 100 ans. C'est plutôt c'est plutôt incroyable. C'est rarement gagné aussi par des Européens, en tout cas par des pilotes automobiles qui ne sont pas américains.
C'est dire la performance première depuis 99 ans. C'est incroyable.
C'est assez incroyable, surtout que ce pilote-là a une trajectoire pas commune, contrairement à Sébastien Bourdais qui était aussi sur cette épreuve-là, qui est passé par la Formule 1 qu'on connaît un petit peu. Mmh. Simon Pagenaud, il est parti il y a un peu plus d'une douzaine d'années aux États-Unis, parce qu'en France c'était dur de vivre de son sport, de trouver des sponsors, etc. Et lui a fait le choix d'aller sur les circuits américains où il y a beaucoup plus d'argent, beaucoup plus d'épreuves différentes. Et ben là c'est la consécration à 35 ans, et c'est le résultat de tous les sacrifices qu'il a pu faire.
Oui. Est-ce qu'il peut-être qu'un jour on le verra en F1, pourquoi pas, on
ne
sait pas. Ans, 35 ans, ça fait vieux, mais bon, on en a vu des comme ça. Sébastien Bourdais, il est venu en F1 assez tardivement.
Par l'IndyCar, il a d'abord percé dans l'IndyCar, Bourdais, avant d'être pris en Formule 1, si on peut dire. Ouais. Bon, il n'a jamais fait des choses extraordinaires, malheureusement. Ouais. Mais bon, à 35 ans, ça me paraît peu probable maintenant qu'on voit Simon Pagenaud.
Non, c'est sûr que là, les tendances en F1, ouais, c'est quand même de faire monter les jeunes le plus rapidement
possible. Oui, puis c'est quand même pas le même pilotage, c'est pas tout à fait la même chose. Mais il est vrai qu'à une époque, pour un non-européen, gagner le Grand Prix, les 500 miles d'Indianapolis, c'était une performance énorme, donc bravo, chapeau. Hein.
Et pour terminer là-dessus, sur les 200 tours de course, il y en a 116 où il était en tête. Oui. On va dire que c'est plutôt mérité sur l'ensemble de la course, même
sûr.
Si, encore une fois, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il s'est fait doubler au 178e tour, il s'est fait doubler à 2-3 tours de la fin, il s'est mérité, mais il a eu chaud.
Oui, c'est, à la fin, il est revenu tout de suite en tête, hein. il a fait une très belle course, mais effectivement, quand on a décroché la pole position, de toute façon, on part un peu plus favori que les autres, et puis il avait quand même démontré ces dernières années que c'était un sacré pilote, il l'a confirmé sur cette course, et bravo à lui.
Je me tourne vers Eric Dupri qui, on va parler vélo.
Oui, on va aller à des vitesses un peu plus...
Un peu plus modestes.
Oui, mais un peu plus modestes tout de même.
En toujours... descente, ça avance.
Mais, ouais, oui, mais il n'y a pas que la descente, il y a souvent avant la descente, il y a une montée.
C'est votre coup de cœur, on va parler du Giro.
Oui, et justement, ça donne le temps de voir les paysages. Alors, entre autres, le Giro, pourquoi ? Parce qu'on a la chance de pouvoir le voir en direct chaque jour sur l'équipe 21, donc ça, déjà, c'était pas le cas à une certaine époque.
Oui, donc gratuitement, effectivement.
Gratuitement, ouais. Et puis de voir à quel point les paysages de l'Italie sont toujours aussi magnifiques. Et surtout, c'est une course où il y a des parcours vraiment sélectifs, où il y a des rebondissements, où il y a des attaques presque tous les jours lorsque le parcours le permet, vrai. ce qui est souvent le cas. Et je trouve que par rapport au Tour de France, on assiste à une course vraiment débridée, qui n'est pas cadenassée, comme on le voit malheureusement depuis des années, chaque mois de juillet, sur nos routes de France. Il n'y a pas grand suspense, malheureusement.
Je vais me faire l'avocat du diable.
Oui.
Si c'est cadenassé au Tour de France, est-ce parce que le Tour de France est... Je vais me faire l'avocat du diable, je le répète, un peu plus prestigieux que le Giro.
Oh bah non, mais personne ne le conteste,
pas
ça.
Pas du tout. Bon. C'est ça qui fait que... Parce qu'il y a tellement quelque chose d'énorme à gagner que ça joue serré. Bah, sachant que le Giro reste quand même l'un des grands
tours. Oui, alors il y a aussi, c'est vrai, sur le Tour de France, il y a une équipe qui cadenasse la course.
Oui,
bien sûr.
Les Sky, pour ne pas la citer.
Ouais. Team Ineos, maintenant.
Oui, c'est vrai qu'ils ont changé
Team
de
Ineos,
nom.
Ouais. Bon.
Le Giro est quand même...
Le fait est que le Giro, je trouve, est une course beaucoup plus intéressante depuis quelques années que le Tour de France.
C'est évident que le Tour de France est plus cadenassé parce que les enjeux sont plus grands.
Oui,
il n'y a qu'à voir la qualité du plateau qu'il y a sur le Giro aujourd'hui. Il y a quand même beaucoup, beaucoup de coureurs qui sont absents, de grands coureurs, j'entends, parce qu'ils se concentrent uniquement sur le Tour de France, parce que c'est la course référence qui reste à gagner. Donc forcément, les enjeux sont plus grands, les équipes sont mieux fournies et la course est beaucoup plus
cadenassée. Cela dit, l'an dernier, il y avait Chris Froome. Et Tom Dumoulin, et bon, voilà.
Oui, même si Chris Froome y allait en mode...
Et malgré tout, la course s'est décidée la veille de l'arrivée.
Elle était magnifique, la course l'année dernière, c'est vrai.
Voilà.
C'est vrai. Oui, bien sûr.
Le tour, pour trouver un tour à suspense, faut remonter loin. Maintenant.
En même temps, Chris Froome, il n'aurait jamais été dans cette situation de devoir chasser le leader sur le Tour de France, parce qu'il aurait été tout simplement préparé parfaitement, et qu'il se serait jamais laissé décrocher en début de Giro. Je veux dire, encore une fois, on revient pour moi sur les mêmes choses.
Il y a des cyclistes... plateau qui eux ne courent que le Giro, ce qui était le cas de Simon Yates l'an dernier. Mmh. Donc bon, c'est vrai, c'est il faut remettre les choses en perspective. Mais néanmoins, je trouve que c'est une course qui vaut vraiment le coup d'être regardée
ça,
tous les jours.
C'est une classique tous les jours.
Ouais. Oui, non, c'est vrai.
C'est vraiment une classique tous les jours. Et juste aussi pour signaler, on a quand même, on va dire, un semi-local. C'est Pavel Sivakov. Il est russe, mais il a été élevé en France. Je crois que sa mère est française, je ne veux pas dire de bêtises. Et surtout, il est formé au vélo club de l'Île Jourdain, donc à 30 km de Toulouse. Et il est dans le team Ineos parce que l'un des directeurs sportifs de Direct Ineos, c'est Nicolas Portal, qui est gersois.
Gersois comme lui.
Et il le connaît. Exactement. Je pense que c'est comme ça que.
Bien sûr, mais c'est surtout un super coureur. Parce que s'il avait le niveau gersois ou pas gersois, il serait pas au team Ineos. Mais effectivement.
Il a 21 ans, premier grand tour, il est 9e et maillot blanc.
Oui, non, mais c'est un excellent coureur et il va être, à mon avis, à suivre dans les années à venir. Dès cette année d'ailleurs, on sait pas s'il va remporter le Giro. Ça me paraît compliqué, mais en tout cas, très bien figuré. Ça, c'est une certitude. Il fait partie de cette nouvelle vague de la team Ineos qui est redoutable. Je signale aussi que sur le Giro, on a pu voir une victoire française avec Arnaud démarre et c'est pas mal. Et on a vu aussi, on voit des jeunes qui font. Il y a aussi Nils Peters qui a été deuxième du général pendant un moment. Donc côté français, même si on n'avait pas beaucoup de coureurs au départ, en tout cas des qui pouvaient peut-être jouer le général, on avait de très bons jeunes et ils sont mis en évidence. Donc c'est plutôt sympa.
Le Giro qui prendra fin le 2 juin prochain, il y aura un mois de. Il faudra patienter un mois avant le Tour de France. Ce sera le 6 juillet, du 6 juillet au 28 juillet.
Ah oui, il y aura de belles courses entre-temps, notamment Dauphiné Libéré. Et tout.
Ouais, exactement. Je me tourne vers Mehdi Guillaumeau. On va changer encore une fois de sport. On va être encore plus dans l'actu, parce que c'est en ce moment, c'est Roland-Garros. Et un coup de cœur sur des Français. On va en profiter quand même sur ces premiers
tours. Tant qu'il est encore temps, c'est ça.
Exactement. Et deux grosses performances, entre autres de Nicolas Mahut et Pierre Hugerbert, qui se sont imposés en 5-7. Après avoir été mené 2-7-0.
Ouais, on va le faire aujourd'hui parce que lundi prochain, ça sera peut-être différent. On va commencer par le plus vieux, Nicolas Mahut, qui joue certainement son dernier Roland Garros en simple. Donc c'est un peu spécial pour lui. Il jouait sur le nouveau cours, le cours Simone Mathieu, de la vie de tout le monde. C'est un cours plutôt réussi. Et ben, l'ambiance a sûrement participé à sa performance. Il était mené 6-2-7-6. Face à Cecchinato, demi-finaliste l'année dernière. Tête de série numéro 16, 19e mondial.
Énorme performance.
Et il a gagné les trois derniers sets, 6-4, 6-2, 6-4. Amené par le public, il l'a dit lui-même. Il est 253e à l'ATP. On le rappelle, c'est le plus gros exploit pour moi des deux, en tout cas.
On le rappelle qu'il joue beaucoup plus en double qu'en simple, d'où son classement en simple, on est d'accord.
Et justement, c'est
vraiment pas un joueur de terre battue, pareil.
Ah non, oui, en plus.
Non, et c'est marrant parce que l'autre exploit, c'est son collègue de double, bah c'est Pierre Hugerbert avec qui il joue.
Ils ont gagné Roland Garros l'année dernière en plus.
L'année dernière ou il y a deux ans ?
En double.
Oui, c'est ça. Ils ont gagné Roland Garros tous les deux récemment. Et donc Pierre Hugerbert a réussi lui aussi un autre exploit. Il a battu Daryl Medvedev, 14e mondial. Il était mené 6-4-6-4 et il a gagné 6-3, 6-2, 7-6 dans un match très 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 agréable. Encore plus le plus gros exploit, c'est Mahut, mais le match le plus agréable, c'était sûrement Pierre Hugerbert.
Quand même, sur la forme du moment, le plus gros exploit, c'est quand même Herbert, parce que Medvedev a très bien marché.
C'est ce que j'allais dire,
précédent,
Medvedev, pour moi c'est un gros outsider.
Herbert est 43e.
Oui, non, mais bien sûr, non, mais c'est vrai. Mais Cecchinato, à part la demi-finale l'année dernière, il n'a pas fait grand-chose, il n'a pas beaucoup de références, ce joueur. Bon, il a une demi-finale à Roland Garros, il a sorti Djokovic l'année dernière, c'est le dernier joueur à avoir battu Djokovic en Grand Slam. Mais bon, tout de même, effectivement, sortir Medvedev, c'était très fort. Ce qui est rigolo, c'est que Herbert a carrément dû se justifier après sa victoire en disant non, j'ai pas voulu faire comme mon pote Mahut, j'ai pas fait exprès de perdre les deux premiers sets pour remonter. Voilà, c'est signe que ces deux joueurs-là, ils sont liés quelque part.
Hein. Avant de parler du tennis féminin d'une enfant,
oui, on a
presque
ça aussi.
D'une gamine de 16 ans qui a réussi aussi un exploit, on parle souvent du caractère, du mental des Français. Là, ils nous prouvent tout le contraire, là, les deux.
C'est Roland
même si ça reste qu'un premier tour, il faut quand même le faire de remonter.
Sur tout autre tournoi, il n'y en a aucun des deux qui aurait gagné. Ils ont été emportés par le public. On dit souvent que Roland Garros, ça ne sert pas les Français. Mais sur ce genre d'exploit, si, ça les sert. Ils ont été portés par ça.
C'est typiquement deux matchs qui rentrent dans ce qu'on appelle l'espèce de magie des premiers tours de Roland Garros. Il n'y a que là, comme ça se passe, Stéphane Robert qui sort Berdych il y a quelques années aussi, à 35 ou 36 ans. Enfin, voilà, on a que des trucs comme ça.
Et puis le paradoxe, c'est que ce sont deux des derniers purs attaquants du circuit qui gagnent ce premier tour à Roland Garros. contre deux joueurs qui a priori sont beaucoup plus forts qu'eux sur terre battue.
Oui, c'est vrai.
Et à noter que Pierre-Yves Gerber, juste qui affrontera Benoît Paire, donc on est sûr d'avoir au moins un Français au troisième tour.
Ah, ça, on déteste. Ah, moi, je déteste ça.
C'est vrai que c'est bizarre.
Ça m'énerve. Je préfère qu'ils perdent tous les deux contre des joueurs qui ne sont pas français plutôt qu'ils se charquettent entre eux. Moi, ça m'énerve.
Un mot sur le tennis féminin, l'exploit d'une Française de 16 ans.
Exactement.
16 ans.
Paris. Elle a 16 ans. Elle est 400.
Paris, je crois.
Paris, oui.
Je crois. Je suis pas sûr. Hein.
Elle est 400. Elle est 400e mondiale. C'est son premier Grand Chelem et elle a gagné. Donc elle sera au second tour et peut-être enfin un espoir pour le tennis féminin français.
Oui, parce que dans le même temps, Alizée Cornet et Pauline Parmentier se sont fait sortir. Alors surtout Cornet, c'est quand même une grosse déception. Et elle, cette jeune petite, elle a totalement justifié son invitation et vraiment bravo à elle parce que c'est incroyable quoi. C'est incroyable de faire ça et de devenir quasiment la plus jeune.
Éric Dupri pour conclure.
Oui, juste je me demandais qui elle allait affronter au deuxième tour.
Je me souviens plus, une Biélorusse ou quelque chose.
Donc c'est pas une joueuse très cotée.
A priori non.
Donc
mais
ça peut être jouable.
On vous le dira au cours de l'émission.
On vous dira ça juste après la musique. On se retrouve dans moins de 4 minutes et on en parlera dans l'agenda de la semaine avec Lucas Serdica tout de suite.
Was a fan of your ways, but I'm still here playing your games. So tag me in. Which blade coming for your flesh and your bones? Inside, in between. I'm playing contract, never not alone. No time left for me. Land and space, all the words, freedom over, but your page is drowning in. Inside out, keep it brief, keep it sober. Can you keep it out of sight from me? When you're cutting it close. But nothing has changed. Fighting with most and placing the blame. Hey now, what you gonna do about me? I never was a fan of your ways, but I'm still here playing your game. So tag me in. Hey now, what you gonna do about me? I never was a fan of your ways, but I'm still here playing your game. So tag me in. Instant karma shifting shapes in the shadows. Staying inside the line. Lost all trace of the life that you borrowed. Lost all sense of time. A cheap tricks, just kicks, just to keep it steady. Severed at the roots. Silence rules when your heart's feeling heavy. Silence tells the truth. When you're cutting it close, but nothing has changed. Fighting with most and placing the blame. Hey now, what you gonna do about me? I never was a fan of your ways, but I'm still here playing your game. So tag me in. Hey now, what you gonna do about me? I never was a fan of your ways, but I'm still here playing your game. So tag me in. Was a fan of your ways, but I'm still here playing your games, so tag me in.
It's Barry Moore sur Radio Présence.
Sportez-vous bien, l'agenda sportif.
Là, je voulais faire en anglais. C'est une surprise pour vous, Lucas Serdica.
Il a souri toute la pause pour faire ça. Il l'a préparé depuis le début.
Oh là 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 là.
Vous avez vu, je suis surprenant.
Franchement, je suis séché là.
L'agenda de la semaine avec vous, Lucas Serdica.
Oui, pardon.
Et encore une fois, une actu bien chargée. On va commencer, comme d'habitude, par le rugby.
Ouais, très chargé parce qu'on approche de la fin de saison. On est sur la fin de saison. Il y a des dénouements partout et notamment le top 14 qui s'est terminé, en tout cas la fin de saison régulière. On en parlera tout à l'heure dans le débat, mais Castres, le champion en titre, s'est fait éliminer et finira 7e de ce top 14.
Au plus grande joie de Maxime Brossard.
Maxime Brossard, ça, je ne sais pas.
D'ailleurs, je crois que c'est pour ça qu'il n'est pas là. Il est encore en train de faire la fête dans les rues de Toulouse.
Non, mais voilà, moi je trouve ça vraiment triste parce que c'est un club que j'aime bien. Et surtout, c'était la dernière du Rio. Ce qui part là-dessus, c'est vraiment dommage pour eux. On en parlera tout à l'heure. Dans le même temps, le Stade toulousain a battu l'USAP 47-7 et a battu le record de points historique du top 14 en saison régulière. 98 points, c'est énorme ce qu'ils ont accompli. Il y aura donc des barrages qui vont commencer avec vendredi à 21h le Racing qui accueillera La Rochelle, le 4e contre le 5e, et samedi à 17h Lyon 3e contre Montpellier 6e. Donc le Stade Toulousain affrontera le vainqueur de Racing La Rochelle et Clermont le vainqueur de Lyon Montpellier. En Pro D2, on a un champion et c'est une bonne surprise, c'est l'Aviron Bayonnais qui était peut-être le moins bien classé, il me semble, des barragistes,
hein, au terme d'un match assez fou quand même.
Voilà, et qui bat Brive 21-19 à Pau. On a vu du beau rugby, ou on a vu du beau rugby
pour une
et
fois.
Deux ans, j'ai rien dit moi, j'en suis là, vous êtes vous me prêtez des termes qui ne sont pas les miens.
On passe le bonjour à Coraline, bien
donc
évidemment.
Deux ans après, l'Aviron Bayonnais va remonter en top 14 et Brive va avoir une nouvelle chance d'obtenir lui aussi son billet pour le top 14 face à Grenoble dans le match de barrage qui se jouera dimanche à 15h15 à domicile pour Brive, hein, c'est important, c'est quand même celui qui peut monter qui a l'avantage dans cette histoire.
Un mot de Fédéralune.
Plusieurs mots de Fédéralune, oui. Pour dire que malheureusement pour le club albigeois, il ne montera pas en Pro D2 puisqu'ils se sont inclinés sur la pelouse de Rouen 24-12 et c'est vraiment cruel puisque pour un point du coup ils n'acceptent pas à la finale du trophée Jean Prat. C'est Rouen qui y va et voilà, ça fait 33-32 au total entre les deux équipes. Albi ne montrera pas, ce qui ne sera pas le cas par contre de Valence Roman qui a battu Blagnac 24-21. Les Blagnacois se sont vraiment très très bien battus, hein, parce que défaite seulement 3 points là-bas, mais bon, sur l'ensemble des deux matchs ça donne 54-38. Albi, je tiens à dire, risque de perdre son statut de club professionnel.
Ça, c'est
parce
une mauvaise
que,
nouvelle, hein.
Voilà, il passe pour la troisième saison consécutive en Fédéral 1 et les dirigeants l'avaient dit, ce sera très compliqué de se maintenir dans ces cas-là. Un tout petit mot aussi du challenge Yves du Manoir, c'est l'espèce de consolante, hein, en Fédéral 1, pour dire que Tarbes, le stade au Tarbes, est en lice et jouera son quart de finale retour face à Nice dans pas longtemps. Ils ont perdu l'aller 10-20, ce sera samedi à 19h.
On change de sport, mais on reste dans le rugby à 13.
Ouais, très rapidement, pour dire que pour la 15e journée, le Toulouse Olympique s'est imposé brillamment face à Leif Centurions. Merci Maxime Rossard pour la prononciation. 44-16, c'est une bonne perf. La 16e journée se jouera le week-end du 8-9 juin, donc il y a un peu de repos là maintenant.
On va parler de football et le TFC, l'image de la saison, s'incline à Dijon.
Oui, c'était la dernière journée de Ligue 1 et le TFC a permis à Dijon de se sauver provisoirement en tout cas. Oui. En s'inclinant 2-1 là-bas, le seul bon point c'est qu'ils ont fait jouer quelques jeunes et notamment Koné et Ngoumou, hein, qu'on avait envie de voir, de la prometteuse génération des 19. Dijon du coup va jouer un barrage, le barrage aller ce sera jeudi à 21h à Lens, le retour dimanche à 21h à Dijon.
Et là je vais lancer un coup de gueule, c'est mettre deux matchs dans le même pays. En fait, il y a l'équipe de France à 21h et il y a le barrage de Ligue 1 à 21h.
Et oui.
Qu'on ne se plaigne pas qu'il n'y ait personne dans les stades. Le match de l'équipe de France sera plein craqué, bien évidemment, mais on ne met pas deux matchs en même temps aussi importants l'un que l'autre. Quoi.
Tout à fait.
C'est
tout
totalement
à fait.
Débile.
Tout à fait. On finit cette petite parenthèse Ligue 1 pour dire que le TFC termine à la 16e place, à 4 points de la 18e, avec seulement 38 points. Autrement dit, c'est vraiment une saison où il y avait juste des clubs moins bons que le TFC. Ils auraient dû descendre dans beaucoup d'autres saisons.
On va rester dans le football. Il y a la Ligue des Champions, la Ligue Europa, la Coupe du Monde féminine, l'équipe de France et les mondiaux des moins de 20 ans.
On va commencer par ça. Le mondial U20 avec Panama-France demain à 18h sur Canal Plus Sport. Tous ces matchs-là sont à suivre sur Canal Plus Sport. Mali-France aussi vendredi à 18h. Le match amical des vrais, hein, on va dire, de l'équipe.
Des grands.
Une des grands. Voilà. France-Bolivie dimanche à 21h en même temps que le barrage. Ça se jouera à Nantes. La finale de Ligue Europa mercredi à 21h entre Chelsea et Arsenal. Et on continue sur la première ligue, mais en mode Europe, la finale de Ligue des Champions samedi à 21h entre Tottenham et Liverpool, à voir en clair sur BFM pour ceux qui sont en manque de Ligue des Champions gratuite.
Un mot de handball, le Phoenix qui jouera mercredi.
Ouais, mercredi à 20h30 dans le cadre de la 25e journée, l'avant-dernière à Ivry. Et dans le même temps, on a les filles de Toulouse qui jouent en National 1 et qui vont peut-être monter en D2. TFH contre Montpellier, ce sera samedi à 20h30. On annonce aussi qu'à Pau, à partir de vendredi jusqu'à dimanche, il y a les championnats d'Europe de canoë-kayak. Donc ce sera très important à suivre pour les Palois qui sont là-bas et les curieux.
C'est juste à côté. Et on termine malheureusement avec un mot de basket. basket, le TMB s'est incliné en finale.
Ouais, les Toulousaines manquent le titre et la montée en cédant au match 3 face à Charnay 66-53. Elles avaient remporté le match 2 à domicile 76-61, pardon. Malheureusement, elles manquent la montée. Pour parler des hommes aussi, Pau va jouer son match 3 des quarts de finale de Jeep Elite, après avoir perdu sèchement à Nanterre 101-65 et avoir redressé la barre à domicile au match 2 76-64. Ça se jouera mercredi à 20h45 et c'est à suivre sur RMC Sport 2.
Merci Lucas Serdic, c'est complet. On peut maintenant passer au débat de la semaine.
Sportez-vous bien. Le débat.
Vendredi débutent les phases finales 2019 de Top 14, un événement toujours particulier puisque tout est remis à zéro ou presque. Le Stade Toulousain, leader de la saison régulière, est directement qualifié pour les demi-finales. Messieurs, nous allons faire un premier bilan de la saison en se projetant sur les matchs à élimination directe, bien évidemment. Déjà, est-ce qu'on peut dire que c'est une bonne saison de Top 14, Lucas Serdic ?
Moi, pour le Stade Toulousain et la beauté du jeu qu'il propose, j'ai envie de dire oui. On a vu des records qui sont tombés.
C'est oui.
Ah oui, c'est oui, c'est vrai, mince. D'habitude, vous dites juste oui ou non, et là, j'étais oui dans mes pensées. Pardon.
Je reviens vers vous, promis, juste après. Mehdi Guillonneau, pardon.
J'ai eu le temps de réfléchir pendant que Lucas parlait, mais je ne sais pas quoi répondre
c'est
honnêtement
bonne,
à cette question. Oui.
Oui, et Eric Dupri ?
Oui, mais bon, quand on est Toulousain, on va dire oui. Forcément.
Oui, exactement.
Forcément.
Alors, avant de me faire crier dessus, je retourne tout de suite.
Non. Oh là là là, bah non, pas du tout.
Oui, c'est vrai que le Stade Toulousain a proposé un jeu flamboyant sur la saison régulière. Et sans mauvais jeu de mots, là, il faut marquer l'essai. Là, il faut vraiment aller au bout. Là.
Oui, il faut aller au bout. Non, mais pour je me souviens de la saison du Stade Toulousain et même du Top 14 en général, il y a 3, 4, 5 ans, on s'ennuyait sévère souvent, même sur des grosses affiches. J'étais allé voir, je me souviens, 3 matchs d'affilée, Stade Toulousain Clermont, Stade Toulousain Stade Français, Stade Toulousain Toulon, qui étaient des belles affiches. Je vous parle de la saison 2014-2015, là. Et je m'étais ennuyé vraiment beaucoup à Ernest Vallon. J'étais pas le seul. Ça se vidait. Là, on est sur quelque chose de beaucoup plus sympa à suivre quand même, avec du beau jeu, des essais et surtout du culot. Et ça fait du bien de voir un peu moins de calcul dans ce rugby français.
Éric Dupri.
Oui, juste le niveau moyen, en revanche, du Top 14, je ne pense pas qu'il ait beaucoup évolué d'une année sur l'autre.
Oui.
Y a pas eu beaucoup de suspense. Oui, en Coupe d'Europe, voilà. Le Stade Toulousain qui a écrasé le Top 14 s'est fait éliminer sèchement en demi-finale.
Il y a eu une finale franco-française dans le Challenge européen.
Et puis le championnat n'a pas été très intéressant parce que les deux premières places ont été vite attribuées. Les deux dernières aussi. Bon, je dirais que c'est une saison moyenne, quoi, que ce soit sur la qualité du jeu que sur le suspense.
Vous l'avez dit tout à l'heure dans l'agenda, le Stade Toulousain attend son adversaire pour les demi-finales. Alors ça se jouera à Bordeaux, c'est sur terrain neutre. Les deux demi-finales, ce sera le 8 juin pour le Stade Toulousain, ce sera contre le Racing 92. Qu'ils ont affronté en quart de finale de la Coupe d'Europe cette année, ou le Stade Rochelet, finaliste du Challenge européen, donc un gros adversaire quoi qu'il arrive, en demi-finale. Et Clermont, ce sera le lendemain, le 9 juin, toujours au Matmut Atlantique de Bordeaux. Ce sera contre Lyon ou Montpellier. Un petit mot sur Lyon. Le Loup est quand même dans la continuité, demi-finale l'année dernière. Bon, il y avait eu un exploit l'année dernière, ils avaient sorti en barrage Toulon, mais voilà, ils sont dans la continuité cette année.
Oui, non, mais bien sûr, le Loup sera un club, une équipe en tout cas à suivre avec attention, même si Montpellier, commence à faire peur parce qu'ils reviennent très 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 fort sur cette fin de saison régulière.
Ils vont arriver lancés.
Ah ouais.
Un peu comme Castres l'année dernière.
Oui.
On va en parler de Castres tout à l'heure, mais c'est un peu dans le même style que Castres l'année dernière.
Oui, Montpellier, oui, tout à fait.
Oui, non, mais c'est ça.
Le sixième est sûrement, alors pas le favori, mais l'outsider, quoi.
L'outsider,
comme un petit peu.
Outsider très sérieux.
Ouais.
L'année dernière, Castres qui avait réussi à attraper un peu comme Montpellier cette année la phase finale, le barrage à la dernière journée avant d'être sacré champion de France en éliminant Toulouse en barrage. Voilà, Montpellier, ils sont vraiment ils vont être dans l'euphorie de cette
on
fin de saison.
On peut penser
régulière.
Que ça va être l'équipe en forme pour ces peut-être 3 derniers matchs de la saison s'ils arrivent en finale.
Oui. Gros match à Lyon quand même.
Oui, il faut déjà les gagner.
C'est tous des gros matchs. Enfin, quand
on regarde
les 6 équipes, et même si Castres avait été qualifié à la place des uns ou des autres, c'est quand même des matchs très très durs à pronostiquer. Quand on voit les phases finales des dernières années, je me souviens de la victoire du Stade Français en 2015, c'était des choses qui n'étaient pas attendues, même Castres l'an dernier. Donc en fait, les 6 équipes au final peuvent être championnes de France.
C'est pas toujours facile.
D'ailleurs, on parle de Montpellier.
C'est ça, à lire, c'est très compliqué.
Montpellier est tout simplement finaliste. Ils avaient perdu perdu contre Castres l'année dernière en finale du top 14.
Ah, ils s'en étaient vraiment difficilement remis quand on a vu leur début de saison. Oui. Je mets une petite pièce aussi sur La Rochelle, même si encore une fois c'est difficile à lire, parce qu'ils calent 12 essais, je crois, non, à Bordeaux, à l'UBB. 81 points marqués sur une dernière journée. Bon, certes, l'UBB avait relâché.
92.
C'est beaucoup quand même. Mmh. On verra, hein, avec leur jeu un petit peu aussi décomplexé, ils peuvent faire n'importe quoi.
C'est sur un match, donc les compteurs sont remis à zéro d'une certaine manière. Je pense que la forme et l'euphorie du moment vont jouer. Donc, effectivement, La Rochelle et Montpellier peuvent surprendre.
Deux mots, on va parler de Toulon, qui a vraiment déçu cette saison. On n'a pas vu le RCT qu'on connaissait aux plus grandes dames de Rémi Souloumiac, notre animateur de la matinale.
Oui, non, mais Toulon, je sais pas. Toulon. Pour moi, il est à l'image de son président, c'est-à-dire il se relâche complètement. J'ai pas l'impression que Mourad Boudjelal soit complètement focus sur son club comme il a pu l'être au début, où il débordait d'ambition. Là, on est sur un club qui se relâche un petit peu et qui va avoir du mal à relancer la machine. On parle d'un retour de mince. Du joueur néo-zélandais, je le retrouverai.
Saver ?
Non, bon, bref, c'est pas grave. Mais toujours est-il que ouais, Toulon va devoir un petit peu se réinventer, parce que là, clairement, ça marche plus.
Mais dis Guillaume.
Sur Toulon, c'est un échec, justement. Les Toulonnais souvent recrutaient les plus grands joueurs étrangers qui venaient en top 14, c'était à Toulon. Et là, ils sont un petit peu trompés, notamment, je citais Saver. Ça n'a absolument pas marché. Il voulait plus ou moins le mettre dehors, finalement.
Je crois que c'est Mahanonou qui va peut-être venir. Faut que je vérifie.
Et ouais, le mélange n'a pas marché. Donc là, ils vont se tourner vers peut-être plus de joueurs français, avec Baptiste Serin notamment. On verra bien. Mais en tout cas, il va y avoir besoin de renouveau. Et je pense que ça va être le cas l'intersaison. Oui.
Le problème, ça a été le mercato, alors, finalement.
Oui, mais aussi, il faut dire qu'après des années de très forte, grande domination, c'est peut-être un peu normal qu'il y ait un creux de la vague, sachant qu'en plus, désolé d'employer le mot, un peu une équipe de mercenaires quand même.
Oui, c'est ça, il n'y a pas de jeunes qui sortent.
On peut se planter d'une année sur l'autre dans le recrutement. Et puis,
à l'image de Monaco pour le football, quoi.
Oui, voilà, moi, je pense qu'il y a aussi ça. Maintenant, on verra l'an prochain s'ils rebondissent, c'est fort possible.
Un mot de nos voisins castrés, bien évidemment, les champions de France en titre sortis dès la saison régulière, même pas en barrage. Alors, est-ce que c'est une réelle surprise, messieurs? On le répète, ok, ils sont champions de France, mais l'année dernière, ils terminent 6e. Là, ils terminent 7e. Ils sont au même niveau que l'année dernière. Est-ce qu'on peut parler d'une réelle surprise de les voir éliminés dès la saison régulière?
C'est une surprise à chaque fois qu'ils sont dans les 6 au final, Castres. C'est quand même pas l'un des plus gros budgets
même,
du top 14.
On parle quand même du champion de France en titre.
Oui, mais quand on voit l'effectif, les joueurs qu'il y a sur une saison. Bon, oui, c'était le champion de France en titre, mais bon, de ne pas les voir là, honnêtement, moi, ça ne me surprend pas quand on voit les clubs devant, et même au final, des clubs qui sont derrière eux, quoi. À chaque fois, moi, je trouve ça exceptionnel à chaque fois, moi, qu'ils vont jouer les phases finales, alors être champion.
Pour moi, il y a une énorme surprise quand même, c'est dans la façon dont ils ne se sont pas qualifiés,
ça, oui.
C'est-à-dire à
ça,
domicile.
Oui.
Ils ne se sont pas qualifiés parce qu'ils ont foiré leur saison complètement à domicile.
Ils ont perdu beaucoup de matchs importants à domicile, souvent de peu.
Dont le dernier, le plus important de tous, et là, face à Toulon, une équipe qui n'avait plus rien à jouer. Donc pour moi, c'est ça la grosse surprise. C'est-à-dire qu'ils ont performé en dehors de leur stade, alors que normalement, ils sont imprenables chez eux.
6 défaites cette saison à domicile. 6 défaites cette saison en top 14, c'est énorme.
6 défaites sur 14, non, sur 13 matchs. Donc là, quasiment la moitié des matchs, c'est énorme pour un club comme Castres qui, normalement, c'est une de ses forces, les matchs à domicile. Et même dans le rugby en général, c'est une force de jouer à domicile, plus qu'au foot.
De moins en moins.
De moins en moins.
Les pourcentages évoluent dans le rugby moderne. Il y a de plus en plus de victoires à l'extérieur, un peu comme le foot a évolué dans les années 90, en fait. C'est ce qui se passait il y a 20 ans dans le foot.
Moi, c'est ça qui m'a étonné dans ce parcours du CO.
Mais il leur manque un point. Ils en ont laissé beaucoup en route.
À domicile, de toute façon, ils perdent les barrages à domicile. Il ne faut pas les chercher. Un mot du bas du classement. Bon, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que Perpignan n'a jamais été au niveau, malheureusement.
C'était un peu annoncé, malheureusement.
Du top 14.
Ils ont mal démarré en plus. Bon.
Oui, c'est ça. On aurait pu avoir une bonne surprise, mais je l'aurais souhaité en tout cas. Mais bon, tant pis pour eux. Ils vont se ragaillardir en Pro D2 et on l'espère revenir plus fort parce que c'est un club historique. Et il y a 10 ans, faut pas l'oublier, ils étaient champions de France.
Mais ils sont bien remplacés au niveau des historiques.
Voilà, on va en parler. Ils laissent la place à Bayonne, autre club historique. Bayonne, on en a aussi parlé tout à l'heure en finale de Pro D2, ils ont battu Brive 21-19 à la dernière seconde, une pénalité à la dernière seconde. Faut en avoir là.
À l'image de leur victoire face à Yonax en demi-finale.
Ils reviennent de nulle part. Ils reviennent absolument de nulle part parce qu'ils étaient menés, il me semble, de plus d'une vingtaine de points à Oyonnax lors du barrage. Ils réussissent à gagner. Oui. Même là, il y a des moments où ils étaient dominés par Brive, ils ont pas mal défendu, notamment en début de deuxième mi-temps, et ils s'imposent complètement à la fin. Un peu la surprise, même pour eux, parce qu'au final, ce que disaient même les dirigeants, c'est que leur effectif, il était construit pour jouer les phases finales cette année,
oui.
mais se renforcer et avoir vraiment l'objectif de monter l'année prochaine.
C'est presque un point noir, hein, parce que
ils vont pas faire comme Perpignan, quoi.
Ils montent un an.
C'était la question. Est-ce que
ils montent un an trop tôt.
Ils montent de justesse. Il n'y a pas une énorme marge par rapport aux adversaires en Pro D2. Le danger, c'est de faire une saison blanche l'année prochaine. Ce qu'on ne leur souhaite pas, bien évidemment, à nos amis bayonnais, mais c'est ce qui devrait se passer si la logique.
Mais ils l'ont déjà fait un petit peu, il me semble, il y a deux ans. Moi, oui. j'avais vécu la montée. Je suis supporter de Bayonne au rugby.
Ah,
j'avais vécu la montée. J'étais là-bas. C'était à Toulouse la finale, mais moi, j'étais à Bayonne devant l'écran géant. Et les gens étaient hyper contents, mais savaient que l'année d'après allait être compliquée. C'est exactement le même sens.
L'écart devient trop important entre top 14 Pro D2.
Ils n'avaient pas complètement démérité quand même, dans leur année.
Ah, ils partaient peut-être de plus loin cette année, enfin pour l'année prochaine du coup.
Brive, qui est finaliste de Pro D2, aura l'occasion de une seconde chance de retrouver le top 14. Il faudra battre Grenoble 13e du top 14. Un mot pour conclure, messieurs. Toulouse, Clermont, Lyon, le Racing, le Stade Rochelet et Montpellier. Est-ce que Toulouse est le grand favori de ce titre, ou est-ce qu'on peut parler de favori d'une saison régulière et une phase finale?
Il est pour moi le grand favori, mais faudra faire très très attention à Montpellier qui revient en forme, et surtout parce qu'on n'en parle pas, et parce qu'ils avancent masqués depuis un moment, et parce qu'ils vont peut-être tordre le cou à leur image d'éternel loser. Clermont me fait craindre le pire, moi.
C'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup de Clermont, mais par contre, c'est vrai qu'ils ont été dans les deux premiers tout au long de la saison.
C'est la seule équipe qu'on n'a pas évoquée tout à l'heure en discutant, mais
on peut en parler.
Au final, c'est eux qui ont talonné au Stade Toulousain.
Ils ont été leaders. De toute façon, ça s'est joué. Il y a eu les deux moitiés. Hein, c'est une moitié Clermont et une moitié Toulouse. Hein,
je me méfie parce qu'ils n'ont jamais été aussi moches, presque.
Oui, en général, ils arrivent grands favoris. Voilà. Ils s'effondrent sur la fin. Et puis il faut dire aussi qu'ils ont moins puisé a priori dans leurs réserves que Toulouse, parce que eux n'ont pas joué la Coupe d'Europe.
Mais ils ont quand même le challenge, ils ont gagné.
Le niveau est moins.
Oui, mais c'est pas le même engagement quand même.
C'est vrai.
Et puis ils ont fait toute la saison assez tranquillement, ils ont été sans pression. Je pense qu'ils arrivent à la fois frais physiquement et frais dans leur tête.
Ouais.
Bon,
la saison se ressemble pour Clermont.
Ouais, puis ils ont un peu plus d'expérience que les Toulousains, mine de rien. C'est un effectif qui a un peu plus de vécu.
Oui, plus d'expérience.
Le dernier titre de Clermont, ça remonte à pas longtemps, il y a deux ans. Victoire contre Toulon, 22-16. Et il faut remonter à 2012 pour une dernière victoire du Stade Toulousain. C'était encore une fois face à Toulon, 18-12. Merci, messieurs. Et nous, on se retrouve dans moins de 4 minutes. Nous serons avec notre invité, Philippe Quintet. À tout de suite.
Cause baby, so am I. So am I, so am I, so am I.
Jingle.
Sportez-vous bien. L'invité.
On s'est pas compris avec notre réalisateur Grégoire, désolé. Notre invité est 13 fois champion du monde et 12 fois champion de France. Petit palmarès, bien évidemment, il est champion de pétanque. Philippe Quintet est une légende de la pétanque mondiale et française. Philippe, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Merci d'être avec nous en direct sur, dans Sportez-vous bien sur Radio Présence. Alors pour présenter un petit peu d'abord le, la pétanque, le nom complet de la fédération, c'est la Fédération Française de Pétanque et Jeux Provençal. Quelle est la différence entre la pétanque et le jeu provençal?
Bon, alors la pétanque, ça se joue entre 6 et 10 mètres. Ça se joue, on est pétanqué, c'est-à-dire les pieds dans le rond. Et la provençale, donc, c'est un jeu où vous jouez entre 15 et 20 mètres. Et pour tirer, vous êtes obligé de courir et de faire 3 pas.
Et c'est,
Par contre, ça se joue toujours avec des boules de pétanque.
Toujours avec des boules de pétanque. Et il y a la lyonnaise où ce sont des boules plus grosses, c'est bien ça?
Ouais, on va dire que le jeu provençal, ça ressemble un peu à la lyonnaise, sauf que la lyonnaise, on joue avec des boules beaucoup plus grosses.
Elles sont pas... oui, j'allais dire...
Lucas Sardic.
Oui, pardon, excusez-moi. Mais les boules beaucoup plus grosses là, du jeu de la lyonnaise, c'est que pour la lyonnaise. J'ai vu un sport un petit peu étrange quand je me suis baladé en Croatie et je me suis demandé si je joue à la lyonnaise, au jeu provençal ou à autre chose.
Il y a un autre sport qui s'appelle la Rafa Volo, c'est peut-être celui-là que vous avez dû voir.
Ah oui, certainement, oui. Voilà. Il y en a beaucoup finalement.
Oui, il y en a beaucoup. D'ailleurs, il y a une confédération qui s'appelle la Confédération Mondiale de Boules où il y a plusieurs sports. Ouais, exactement.
Et pour gagner, est-ce que bon, pour la pétanque, il faut 13 points. Ouais. Pareil pour le jeu provençal?
Oui, pareil pour le jeu provençal, tout à fait. Alors après, il y a des parties qualificatives, les toutes premières parties qui peuvent se jouer à 11 points. Ouais. Et il y avait, dans le temps, plus maintenant, il y avait la finale des championnats du monde qui, elle, se jouait en 15 points. Mais maintenant, ça y est, c'est redevenu une partie normale et ils la font en 13.
On va en parler tout à l'heure des championnats du monde. La différence aussi entre le jeu provençal et la pétanque, j'imagine qu'il faut avoir une condition physique peut-être un peu plus importante pour le jeu provençal. Et les parties sont beaucoup plus longues.
Il faut courir déjà pour tirer. Les parties sont plus longues, c'est vrai. Et puis... oui, c'est vrai que ça se joue beaucoup plus loin. Donc, d'abord c'est plus long, et puis le fait de courir, c'est vrai que ça, c'est plus physique.
Bon, comme on l'a vu sur votre palmarès, on va le répéter, 13 fois champion du monde. Voilà, il y a 9 fois en triplette, 4 fois en tir de précision, 2 fois en tant qu'entraîneur, 12 fois champion de France. Pareil, il y a du tête-à-tête, du doublette, du triplette, du doublette mixte. Donc, comme son nom l'indique, c'est un homme et une femme. Vous en rendez compte de ces nombreux titres sur la scène nationale et internationale?
Oui, bah forcément que oui. J'ai eu la chance d'être un des premiers à pouvoir gagner dans toutes les catégories. Après j'ai 51 ans, donc ça fait quand même un moment que je suis sur le parcours. Mais disons que ça vous oblige à savoir un peu tout faire, quoi, de pouvoir jouer un peu à toutes les places. Et c'est ce qui a fait un peu ma force.
On vit de la pétanque ou pas quand on est champion du monde, quand on est à votre niveau? On pense à Souchot, à Lacroix, il y a Dylan Rocher là, qui est en train aussi d'exploser. Bon, lui il est là depuis un moment aussi, il a commencé très jeune, mais voilà, on vit de la pétanque quand on est à ce niveau-là.
On ne vit pas de la pétanque. Après, on peut vivre. Moi j'ai monté des sociétés autour de la pétanque. Hein, j'ai une société de textile. Je suis également revendeur de boules pour mon sponsor. Donc ça, on peut vivre grâce à ça. Mais par la pétanque elle-même, non, on peut pas. Non.
Lucas Sardic.
Oui, on va évidemment parler à un moment donné et assez rapidement des Jeux Olympiques, puisque on en parle de plus en plus. J'entendais l'énumération de vos titres tout à l'heure, tir de précision. Est-ce que ce serait ce genre d'épreuve qui serait aux Jeux Olympiques, et est-ce que vous pourriez peut-être y participer?
Ben non, je sais pas si vous le savez, mais malheureusement on a été éloigné des Jeux Olympiques, hein, pour 2024. Ce sera pas la pétanque, malheureusement. C'est vrai que la formule, ça aurait été tir de précision et le doublette mixte, parce que l'avantage d'avoir du doublette mixte, ça pouvait permettre de faire jouer un homme et une femme dans la même catégorie, oui. Ce qu'il y a très peu dans les sports olympiques, peut-être même pas du tout. Malheureusement, on n'a pas été choisi.
C'est une déception, j'imagine, de ne pas être pour les Jeux Olympiques de Paris, justement. On va en parler aussi tout à l'heure, mais c'est vrai que la France, c'est un peu le sport de la pétanque où on surdomine la catégorie.
Ça aurait été délocalisé à Marseille, en plus.
sûrement. Mais j'imagine que c'est une énorme déception.
Non, c'est une énorme déception pour le sport par lui-même. Une déception surtout parce que le fait que ce soit en France, c'était une opportunité terrible qui, malheureusement, à mon avis, ne reviendra pas. Euh, Et puis je pense qu'on avait quand même préparé les choses correctement. Le fait que l'équipe 21 maintenant montre de la pétanque assez régulièrement à la télévision avait montré quand même que c'était très télégénique et que c'était beau, hein, que ça pouvait passer aux Jeux Olympiques. Bon, après ça n'a pas été choisi. Bon, voilà, on peut pas y faire grand-chose, malheureusement.
Vous vous y attendiez à ce refus?
Je m'y attendais pas plus que ça, parce que je vous dis, je pensais réellement que l'aspect télévisuel allait nous servir. Et malheureusement, ça n'a pas été le cas. Mais bon, on savait qu'on avait... Pour moi, on avait 8 chances sur 10 d'y être.
Ah oui, quand même.
Et bah, je me suis bien trompé.
Qu'est-ce qu'il manque, justement, pour faire partie des Jeux Olympiques? Rien.
Alors après,
c'est un peu de chance.
Ouais, non, je sais pas. Je pense qu'il y a, c'est pas que la chance. Il doit y avoir des choses.
Un peu de politique.
Du lobbying.
Du business, à mon avis, de l'argent. Voilà, des sponsors, des gros sponsors. Malheureusement, la pétanque, on n'a pas de nom de sponsor important comme les autres sports peuvent avoir. Je pense que ça a dû y faire. Après, le truc qui est un peu choquant de l'histoire, c'est qu'on nous a refoulé sans vraiment nous dire pourquoi.
Oui, donc vous pouvez pas travailler sur le pourquoi du comment vous avez été refusé.
Bon, après je comprends qu'il y a des on a peut-être pas des bonnes structures, on est un sport de masse. Alors qui dit sport de masse, c'est vrai qu'on est un des rares sports où l'élite joue en compétition avec des amateurs. Et peut-être que c'est aussi un peu le pourquoi qui a peut-être un peu gêné dans l'affaire.
Si on nous l'avait dit,
on aurait peut-être fait autrement, quoi.
Il est peut-être aussi un peu moins universel, ce sport.
Oui, peut-être également. C'est vrai que bon, on est parti de loin. Hein. On avait quand même une image, c'est vrai, une image qui est difficile à l'image pagnolesque. A fait beaucoup, même si c'était sympa au début, ça a fait quand même beaucoup de tort pour devenir un vrai sport. Après, je pensais réellement qu'on avait fait, enfin que grâce à la télévision, grâce à l'élite, on avait fait ce qu'il fallait pour pouvoir changer cette image. Ça a peut-être pas suffi, à mon avis.
Justement, on avait reçu il y a 3 semaines Simon Gauzy, qui est joueur de tennis de table et qui nous disait que son sport, bah justement, il était un peu vu un peu comme du sport de camping. Comme vous venez de le dire, c'est un peu le cas pour la pétanque. Quel regard vous portez à ça? Est-ce que ça vous agace justement de dire, bah, c'est justement en vacances, en tong, en sachant qu'on n'a pas le droit en compétition officielle? Mais est-ce que ça vous agace, ça, justement?
Ouais, certainement que ça nous agace. Après, c'est un sport qui se pratique comme un sport et également comme un loisir. On devrait distinguer largement les deux. Également, je pense la même chose pour le tennis de table. Le tennis de table, quand vous voyez des compétitions de haut niveau, ça n'a strictement rien à voir avec un sport de plage ou de camping. Voilà, il faut pouvoir faire. Faut complètement oublier cette image loisir. Il est là le problème. Le football, il y a également le football maintenant, il y a également le football sur la plage, c'est pas du tout le même, donc il faudrait faire abstraction de tout ça et penser que là, on a quand même un sport où il y a des élites, on a des sportifs qui passent quand même une grande partie de leur vie à s'entraîner pour devenir des champions. Et malheureusement, il n'y a pas de retour là-dessus, quoi.
Il faut pas oublier que ce sont des sportifs de haut niveau. On va en parler tout à l'heure de la condition physique. Lucas Cerdic.
Oui, justement, pour revenir un petit peu sur ce que vous venez de dire, depuis pas longtemps, ça va peut-être faire sourire les gens, mais c'est que depuis très peu de temps que l'alcool, par exemple, est interdit en compétition officielle de pétanque. Et d'ailleurs, ça a fait beaucoup réagir sur
les
réseaux sociaux et voilà, sur les terrains en général, avec beaucoup de blagues. Mais au final, quand on interviewait les joueurs de pétanque, ils étaient tous là. Il était grand temps que ça soit interdit. Est-ce que vous pensez que c'est peut-être arrivé un peu trop tard, justement, dans cette optique des JO de 2024?
Oui, vous avez vraiment raison. Après, la différence, c'est que quand vous voyez la pétanque de très haut niveau, c'est-à-dire la pétanque élite, il n'y a pas cet aspect d'alcool. Les concours sont organisés. Voilà, les concours sont organisés de façon... Enfin, tout est payé. Il y a des sponsors qui sont là pour entretenir la compétition. Le gros problème de l'alcool, c'est que un club aujourd'hui pour vivre, un club normal, hein, je ne parle pas de haut niveau, un club normal pour pouvoir vivre et pour pouvoir entretenir ses joueurs, c'est-à-dire payer les vêtements, payer les déplacements de ses joueurs, il est obligé de gagner de l'argent et des clubs, un club de pétanque va avoir du mal justement à pouvoir trouver des ressources pour pouvoir le faire. Donc sa seule façon de gagner de l'argent, c'est d'organiser des compétitions et de faire travailler la buvette. Et c'est la buvette qui leur apporte de l'argent. Et malheureusement, si vous le faites pas aujourd'hui, on a essayé de le faire sans alcool. On est malheureusement, c'est un sport de masse, donc les gens viennent aussi pour s'amuser, viennent aussi pour passer une après-midi. Et quand vous leur proposez que de l'eau, ça peut marcher à un moment, puis ça ne marche pas tout le temps.
C'est là qu'il faut séparer peut-être l'élite de la masse, comme vous dites, non ?
Oui, oui, c'est ça. Le problème, il aurait fallu. Mais tout a été séparé. C'est séparé. Simplement, on revient toujours sur la même chose, c'est-à-dire que il y a dans les vraies compétitions, dans les compétitions lambda, il y a ce mélange de masse et d'élite. Il est là le problème. Et c'est vrai qu'on aurait dû. Enfin, si le projet JO était peut-être tombé avant, il aurait fallu séparer ça très rapidement de façon à faire une compétition élite et une compétition lambda. Et ça aurait permis peut-être de pouvoir évacuer tout ça. Mais aujourd'hui, sur une compétition, si vous ne vendez pas d'alcool, de toute façon, les gens, ils en mettent dans leur coffre, ils emmènent leur glacière et ils en boivent quand même. Donc, d'une manière ou d'une autre,
autant la vendre.
Pas grand-chose.
Une question de Mehdi Guillonneau, un chroniqueur.
Oui, autre paramètre aussi pour les Jeux Olympiques. On voit ça quand même, la pétanque, comme un sport assez français. Justement, est-ce qu'il y a d'autres pays qui sont ouverts à ça ? Est-ce que ça se développe ? Et puis même, est-ce que ça participe à élever le niveau des compétitions ?
Non, mais ça se développe depuis très longtemps. Hein. C'est la télé qui le montre maintenant. Avant, c'est vrai qu'on le savait pas. Aujourd'hui, la télé le montre. Quand vous regardez les compétitions internationales, il y a des pays qui sont aussi forts que la France.
L'Italie, les Malgaches, en général.
Bien sûr, la Thaïlande, Maroc, les pays asiatiques. Et il y a quand même 80, je crois que c'est 83 fédérations dans le monde. Donc, vous voyez, on n'est pas les seuls à jouer.
Et vous sentez le niveau se relever d'année en année pour les mondiaux ou les compétitions
bien sûr, maintenant d'ailleurs, moi, je n'ai pas connu ça à ma jeune époque. Maintenant, il y a des écoles de pétanque dans tous les pays. Les jeunes sont formés pour devenir des champions en Thaïlande, en Chine, enfin surtout dans les pays asiatiques, c'est devenu un sport vraiment très très important. Bon, les Malgaches, ils sont un peu moins structurés, mais par contre, ils ont un talent fou. Maintenant c'est pour la France. Maintenant, c'est difficile de gagner. Heureusement qu'il y a une réserve de champions qui arrive et qui pourront continuer à remporter des titres, mais ça va être de plus en plus dur.
Justement, pour parler des compétitions, des championnats du monde, des championnats de France, où vous avez été encore une fois 13 fois champion du monde, 12 fois champion de France, c'est des concours, des tournois sur plusieurs jours, des parties de plusieurs heures. Il faut quand même avoir une certaine condition physique. Justement, on parlait de sport de camping, mais c'est vraiment un sport à part entière, et quand on commence le matin à 8h, j'imagine que le soir à 19h, on a les jambes qui sont lourdes.
Ouais, alors surtout dans les compétitions nationales. Après, les championnats du monde, ce sont des compétitions qui durent plus longtemps, hein, qui sont généralement faites sur 4 ou 5 jours. C'est un petit peu moins contraignant au niveau du physique. Par contre, les championnats de France,
c'est sur 2 jours.
Se font sur un week-end. Ouais. Alors là, il y a le championnat de France, il y a 256 triplettes. Donc vous avez toutes ces équipes qui sont là pendant 2 jours, et la finale, elle est le dimanche à 17h, donc faut que ce soit à 17h, donc ça arrive de finir tard. Il arrive de finir tard et de reprendre très tôt le matin.
Lucas Sardic.
Et vous, quels sont vos petits trucs avant une grosse compétition ? Est-ce que vous entraînez tous les jours au tir, ou est-ce que d'un seul coup, justement, vous lâchez les boules de pétanque et vous mettez un petit peu dans votre bulle ? Vous avez des petits trucs ou pas ?
Oui, bien sûr, on a tous nos petits trucs. Moi, ça a été des années d'entraînement, on va dire entre 16 et 25 ans. Et puis après, bon, l'entraînement, on en fait un peu moins. On essaye de surtout gérer les moments compliqués, parce que, bon, c'est comme dans tous les sports, hein, y a des moments plus faciles. Quand on tombe contre des équipes un peu moins fortes, on peut gérer. Par contre, ce qu'il faut, c'est se préparer pour les matchs importants. Et là, on a tous un petit truc. Moi, j'aime bien me mettre dans mon coin, isolé, et passer un petit peu de temps tout seul.
Vous avez été champion en tête-à-tête, en doublette, dont en 99 à Belfort. Je viens de Belfort, c'est pour ça que je le dis. en triplette, en doublette mixte. La façon de jouer, elle change, j'imagine, entre doublette, de tête-à-tête, triplette.
Oui, tout à fait. Oui, ce sont des compétitions complètement différentes. Doublette mixte, par exemple, on joue avec une femme, forcément. Le jeu est pas du tout le même. C'est beaucoup moins offensif. Généralement, il y a très peu de. Enfin, il y en a plus maintenant, mais à mon époque, il y en avait un peu moins de femmes qui étaient qui jouaient offensivement, hein, qui tiraient beaucoup. Il y en avait pas beaucoup. Donc, généralement, les femmes pointaient et puis les hommes tiraient. Ensuite, en tête à tête, c'est complètement différent. Tête à tête, c'est par rapport à la forme du moment, et c'est surtout par rapport à votre forme. Donc c'est là que c'est comme ça que vous savez si vous devez beaucoup pointer ou l'inverse. Et puis après, bah, en triplette, parce que le plus beau jeu de la pétanque, c'est quand même la triplette. Hein, c'est le vrai, d'ailleurs, c'est la vraie pétanque, c'est en triplette. Donc là, vous êtes une équipe, c'est du pur collectif. Hein, donc là, vous...
Oui, il y a presque de la tactique aussi.
Oui, c'est ça, il faut se connaître. Vous savez, c'est comme dans beaucoup de sports. S'il faut qu'il y ait une entente, il faut vraiment se connaître, il faut qu'il y ait une entente. Et vous pouvez mettre trois champions ensemble s'il n'y a pas d'ambiance, s'il n'y a pas de bon esprit, vous ne gagnez pas. Donc il y a des équipes qui paraissent moins fortes sur le papier, mais qui sont plus fortes dans le jeu parce qu'ils se connaissent vraiment, ils ont l'habitude de jouer ensemble et là, il n'y a pas de problème.
Pour conclure, Philippe, parmi tous ces titres de champion du monde, champion de France, autres, si vous devez ressortir un titre, ce serait lequel? Le premier, le dernier, ce serait lequel? Ben, et pourquoi?
On va dire le premier, parce que le premier, il arrive, on en rêve, mais on ne sait pas si ça arrivera un jour. Le dernier est sympa, mais on espère toujours qu'il y en ait un autre. Donc
on ne sait pas que c'est le dernier encore à ce moment-là, quoi.
Voilà, on ne sait pas que c'est le dernier encore à ce moment-là, quoi. Voilà. Mais bon, le plus important, c'est le premier, parce que c'est ce qui amène le reste de votre carrière.
Philippe Quintet, merci beaucoup.
Avec plaisir.
Merci d'avoir été avec nous sur Radio Présence. Merci, c'est déjà terminé, messieurs. Un mot juste pour terminer, c'est bien dimanche, France-Bolivie. Il y a aussi la finale de la Ligue des Champions, la finale de la Ligue Europa, le top 14. Il y a de quoi faire cette semaine.
En semaine foot, en tout cas, oui, on va être vraiment servi. Il y a beaucoup de matchs à suivre.
Même pour le rugby, bien évidemment, Roland Garros,
la fin du Giro, les finales NBA, hein, parce qu'on n'en a pas parlé, mais nous, on a vraiment hâte de le voir. Les finales NHL aussi, hein, si Maxime Brossard était là, il le dirait. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses à suivre cette semaine. Profitez-en bien.
Et on se retrouve lundi. Merci, messieurs. Merci à Grégoire à la réalisation. Retrouvez demain dès 7h Rémi Souloumiac, Isabelle Honneil et Corinne Saint-Félix, à 9h Vivante Église avec Emmanuel Pella. On se retrouve nous lundi, bonne semaine avec Radio Présence.
Au revoir.
Immersion. Dans Immersion, je vous propose une plongée au cœur de la vie chrétienne. 27 minutes de reportages, d'enquêtes et de témoignages pour découvrir et